Et l'heure du journal, midi et quart, avec Estelle Herman, bonjour.
Bonjour, le pape François est mort ce matin au Vatican à l'âge de 88 ans. Figure populaire mais contestée, le premier pape sud-américain laisse derrière lui 12 ans de pontificat, marqué par un style direct, des réformes ambitieuses et une attention constante aux périphéries du monde. Chasse aux œufs, repas de famille ou moments conviviaux dans les villages, Pâques se positionne toujours au même titre que Noël, en tête des listes des célébrations auxquelles on n'échappe pas. Elle apporte avec elle ses symboles, l'œuf, le lapin et le chocolat. Apprendre à travailler en hauteur en toute sécurité, c'est le but d'un parcours aménagé à l'école jurassienne du Bois à Delémont. L'installation en service depuis quelques mois a été présentée aux médias la semaine passée. Soyez patients, côté météo, le soleil se fera plus généreux dans l'après-midi. Le développement de nuages donnera toutefois lieu à quelques averses, parfois accompagnées d'un coup de tonnerre, avant tout sur l'arc jurassien. Le pape est mort, le Vatican l'a annoncé ce matin. Il disparaît un peu à la surprise générale après être apparu hier à la loggia de la basilique Saint-Pierre pour souhaiter de joyeuses Pâques aux fidèles. Il était encore en convalescence après plus d'un mois d'hospitalisation pour une double pneumonie. Les précisions de notre correspondant à Rome, Antonino Gallofaro.
Le pape est décédé ce matin à 7h35. Le Vatican l'a annoncé peu avant 10h par la voix du cardinal Farrell, le camerlingue, avec ces mots. Très chers frères et sœurs, c'est avec une profonde douleur que je dois vous annoncer la mort de notre Saint-Père François. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Il nous a appris à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des marginalisés. Ces dernières semaines, le pontife avait déjà risqué de mourir deux fois lorsqu'il était hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome. Il souffrait d'une double pneumonie et deux crises respiratoires avaient failli l'emporter. Mais après 38 jours d'hospitalisation, ses conditions s'étaient améliorées et il avait pu rentrer au Vatican. Ce dernier mois, par contre, son état était resté stationnaire, selon le Saint-Siège. Maintenant, selon la tradition, s'ouvrent 9 jours de service funèbre. Le corps devrait dans un premier temps être exposé dans le palais apostolique pour un premier hommage public. L'inhumation devrait se dérouler entre le 4e et le 6e jour après sa mort.
C'est donc une page de l'histoire qui se tourne. Premier pape venu des Amériques, l'Argentin a marqué son pontificat par son engagement en faveur des plus démunis, du dialogue interreligieux et de la protection de la planète. Thomas Nagy revient sur son parcours.
Rolleré Bergoglio restera certainement comme le pape de la simplicité et du renouveau. Devenu François en 2013, il a été le premier jésuite à accéder au trône de Saint-Pierre. Le natif de Buenos Aires a bouleversé les codes en refusant les fastes du Vatican, privilégiant la proximité avec les fidèles. Il a multiplié les appels à la solidarité et à la paix, dénonçant les injustices et les dérives du monde moderne. Sa voix a aussi porté sur l'écologie. Homme de dialogue, il a tendu la main aux autres confessions, prônant une église plus ouverte et inclusive. Mais son pontificat n'a pas fait l'unanimité. Certaines de ses prises de position ont suscité de vifs débats, y compris au sein de l'Église, notamment sur l'accueil des migrants, sa critique du capitalisme ou encore son ouverture prudente envers les divorcés remariés et les personnes LGBT+. Certains ont reproché au pape François d'aller trop loin, d'autres pas assez. Mais malgré ces controverses, son héritage marquera très certainement durablement l'histoire du catholicisme.
Le successeur du pape François sera élu par le conclave du Vatican parmi les cardinaux de l'Église catholique. C'est un ouvrage monumental dont les riches décorations servent aussi un aspect spirituel. Derrière la Bible de Moutier-Grandval, qui est exposée en ce moment au Musée jurassien d'art et d'histoire, se cache un travail spirituel et minutieux. Le diacre Didier Béret, théologien et bibliste.
Oui, elle a bien sûr une portée spirituelle. On le voit à travers toutes les calligraphies qui sont faites aussi et toutes les illustrations qui sont présentes dans cette Bible. On ne prend pas seulement le soin de recopier, mais on recopie pour que ce soit beau. Et on agrémente ce copiage de représentations et d'illustrations qui permettent d'embellir encore. Donc on voit qu'il faut des connaissances, qu'on prend du temps pour faire bien, parce que quand on copie, on prie en même temps, et parce qu'on a envie, parce que c'est considéré comme la parole de Dieu, de la rendre la plus belle possible. Donc il y a vraiment un travail minutieux. On parle encore aujourd'hui d'un travail de copiste, un travail de fourmi incroyable, lettre après lettre, et on a tous fait l'expérience à l'école quand on doit recopier au tableau, à quel point c'est difficile de faire ça sans faute. Et là, on cherche des méthodes pour essayer de faire sans faute, en comptant le nombre de lettres, en veillant que les bouts des lignes soient les mêmes partout. Et dès qu'il y a un décalage, on perçoit où c'est faux, et puis on est prêt à arracher des pages et à recommencer pour que ce soit parfait.
À quoi pensez-vous quand vous entendez le mot Pâques ? Les œufs, le chocolat et les lapins vous viennent certainement à l'esprit. La directrice de Mémoire d'ici, le centre de recherche et de documentation du Jura bernois, revient sur les symboliques emblématiques de cette fête. Sylviane Messerly commence par le plus fort et le plus ancien dans de nombreuses civilisations, l'œuf.
Un objet, quand on le regarde, qui semble inerte et qui contient à l'intérieur une vie naissante, c'est une image de cette vie, une image du cosmos aussi. Et plus spécifiquement dans la tradition chrétienne, on va dire que le poussin qui est à l'intérieur de cet œuf va briser sa coquille comme le Christ va sortir du sépulcre.
Pourquoi l'œuf est associé à Pâques et pas à une autre fête ?
Pâques est vraiment la fête du renouveau, la fête du printemps. Et en ce sens, c'est évident que l'œuf et le lapin, d'ailleurs, qui lui est un symbole de fertilité, sont associés à la fête de Pâques.
Donc on a l'œuf, le lapin et le chocolat, ça vient d'où ?
Le chocolat, c'est beaucoup plus tardif finalement. C'est quelque chose qui va marquer, comme l'œuf d'ailleurs, le fait de manger des œufs à Pâques, la fin du carême, le fait qu'on soit aujourd'hui à Pâques dans la fête. Donc finalement, on marque l'aspect festif, on marque l'aspect fin de carême. Et le chocolat est bien sûr une invention beaucoup plus tardive. Il arrive en Europe relativement tardivement avec les conquistadors. Il va se démocratiser beaucoup plus tardivement. Et sauf erreur, les premiers lapins en chocolat, on en trouve au début du 19e siècle. Et puis ce sera surtout dans les productions de masse des chocolatiers et grâce à cette production que l'on va pouvoir avoir des lapins en chocolat sur toutes nos tables.
D'après la directrice de Mémoire d'ici, Sylviane Messerly, le lapin en chocolat n'est pas un symbole de Pâques spécifique à la Suisse. Son origine vient d'Allemagne et cette tradition se retrouve désormais un peu partout dans le monde. C'était un projet depuis la création, en 2017, de la nouvelle halle de l'école jurassienne du Bois. C'est désormais une réalité. Un parcours permet d'apprendre à gérer les risques de chute à Delémont. Il est destiné à tous les professionnels appelés à travailler en hauteur, charpentiers, maçons, électriciens ou constructeurs métalliques. Par exemple, l'installation se veut réaliste et elle est certifiée antichute.ch, une première dans le Jura. Elle est en service depuis la fin de l'année dernière et sert régulièrement de cadre pour des cours de sécurité. Stéphane Vimin, président de la commission de formation pour l'association jurassienne des entreprises de la branche.
La formation va durer 8 heures, on doit attester d'une formation de 8 heures. On va commencer avec une petite partie théorique, ensuite on va apprendre à mettre les harnais, à les régler, on va apprendre les nœuds, quelques nœuds obligatoires pour maîtriser les lignes de vie et la sécurité. Et puis ensuite, gentiment, on va monter l'échelle et puis parcourir notre nouveau sentier à quasiment 5,50 m de hauteur.
Alors, il y a quel type d'obstacles sur ce parcours ?
Au niveau des obstacles, antichute.ch n'est pas très exigeant. Par contre, notre fêtière Holzbauschweiz, la fêtière des charpentiers, a un cahier des charges relativement précis. Donc là, il nous demande de reconstituer une toiture. Donc on a des pans inclinés, on a des poutres sur lesquelles on doit marcher. Et puis, une partie d'ouvrage un petit peu plus perturbée avec des chevrons qu'il faut enjamber. Sur cette partie finale, la partie des chevrons, on a aussi un filet. Donc même si la ligne de vie continue, on est en zone sécurisée et là, on peut travailler en toute sécurité.
Des propos recueillis par Léonie Adrovert. Les visiteurs de la Maison Blanche de la Chaux-de-Fonds se mettent à l'heure coréenne. À l'occasion du printemps culturel neuchâtelois, le PCN, la bâtisse construite par l'architecte Le Corbusier, accueille une exposition sur le bojagi, un art traditionnel coréen qui consiste à emballer des objets dans du tissu. C'est la première exposition de la jeune association suisse de bojagi qui a importé tout son matériel directement depuis la Corée du Sud. Pascal Bourquin, président de l'association Maison Blanche, nous explique comment la culture coréenne s'est retrouvée dans le bâtiment historique.
C'était la proposition que nous a faite cette association. Et elle cherchait un endroit pour faire leur première expo ici en Suisse et si possible dans le cadre du PCN K-Culture. Après la première visite qu'on a faite ensemble, j'aurais proposé 4 endroits différents dans la maison sans être trop intrusif pour nos visiteurs. Elles ont tout de suite trouvé ça magnifique et la maison émettait de bonnes ondes, on va dire, pour accueillir leurs œuvres. Et donc voilà, ça a tout de suite fonctionné de ce point de vue-là, purement scénographique, on va dire. Et puis c'est vrai que voilà, on a quand même pas mal de visites durant ces 3 mois. Le printemps est toujours une saison très courue pour nous. C'est encore, encore tout à fait positif d'être là à ce moment.
L'exposition sur le Bojagi est à découvrir jusqu'au 21 juin à La Chaux-de-Fonds. Le fondateur du World Economic Forum de Davos a annoncé sa démission immédiate ce matin. Klaus Schwab quitte son poste de président du conseil de fondation et n'a pas donné d'informations plus précises sur les raisons de son départ. La trêve n'aura pas duré. La Russie a repris ses frappes aériennes sur l'est et le sud de l'Ukraine, ont indiqué ce matin des responsables régionaux ukrainiens. Cela après la trêve pascale du président russe Vladimir Poutine, que les deux pays se sont mutuellement accusés d'avoir violée. 12 morts et 30 blessés, c'est le bilan annoncé par les rebelles Houthis au Yémen. Des frappes imputées aux États-Unis sur la capitale Sanaa. Les bombardements américains sont quasi quotidiens. Et une autre faille de sécurité pour le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, mis en cause dans une faille de sécurité le mois dernier, a aussi partagé des informations sur cette frappe au Yémen sur un autre groupe Signal, selon le New York Times. L'ancien présentateur de la chaîne Fox News fait l'objet d'une enquête interne. C'est la fin de cette édition. Bonne suite de journée à vous.